Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h et en direct. Et je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude aux côtés de ma camarade Ombline. Comment
bonjour.
Ça va?
Ça va bien, bonjour à tous.
Bien, ici c'est votre heure. On parle de vous, de vos expériences, de vos joies et de vos peines. Car Europe 1 s'intéresse à votre vécu. Je suis un dur, un vrai, un tatoué, chantait Fernandel. Le terme virilité englobe l'ensemble des caractères physiques, mentaux et sexuels de l'homme. Ce concept, selon lequel l'homme, pendant longtemps et encore aujourd'hui, se doit d'être fort, de ne pas pleurer, doit tout contrôler, sa famille et son travail. Mais la notion de virilité existe-t-elle encore ? Ou est-elle dépassée alors que notre société tend à être de plus en plus égalitaire? Pour le chercheur québécois Francis Dupuy-Déry, la virilité est surtout une manipulation rhétorique pour préserver la domination masculine. Des stages existent pour les hommes qui veulent retrouver leur masculinité, qui leur semble bafouée. Mais faut-il être viril pour être un homme? La virilité est-elle remise en question? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Comme chaque jour, on vous écoute au standard d'Europe 1, 39,21, 50 centimes la minute. On a le plaisir de vous lire Facebook via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et Twitter, hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Vincent sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Quel âge avez-vous?
Alors j'ai 40 ans.
Vous avez 40 ans. Et nous allons parler d'un phénomène, en tout cas de l'actualité, qui en ce moment résonne beaucoup au niveau de Twitter, puisque des journalistes et des publicitaires, des utilisateurs influents, regroupés sous le groupe privé Facebook La Ligue du LOL, sont accusés d'avoir cyberharcelé pendant des années essentiellement des femmes. Et comme beaucoup d'entre nous, Vincent, vous avez suivi cette affaire avec beaucoup de consternation. Qu'est-ce qu'elle raconte des hommes? Qu'est-ce qu'elle raconte de notre société, cette Ligue du LOL, selon vous?
Selon moi, ce qu'elle raconte, c'est que c'est toute une question en fait, de masculinité et de tout ce que ça peut avoir de toxique. On avait avant l'impression que les hommes les plus virils et les plus toxiques, c'était un petit peu toujours l'image d'Épinal du mec baraqué, sportif, rugbyman, qui traitait les femmes violemment, mais de façon manifeste. On se rend compte qu'en fait, la forme a peut-être changé, mais pas du tout le fond. Des personnes qui étaient dans cette ligue du LOL, c'était des personnes qui étaient comme vous, comme moi, qui étaient des gens généralement plutôt parisiens, plutôt a priori qui travaillent dans des médias progressistes.
Oui.
Et le résultat, c'est le même. C'est avec un espèce d'effet de groupe masculin qui sont retrouvés à écraser ceux qui étaient différents d'eux, c'est-à-dire des femmes, des personnes des hommes qui ne correspondaient pas à leur idéal en fait de virilité. Mmh. C'est effectivement assez consternant.
Ouais, je vous avoue que j'étais assez consterné. On en parlait justement hier soir entre amis et des amis qui me lisaient quelques extraits de Twitter, en tout cas des attaques dont faisait dont étaient victimes certaines femmes, journalistes, consoeurs, et c'est vrai que c'était d'une violence assez inouïe. Vous vous êtes demandé si vous aussi vous aviez pu participer à cette culture du boys club, comme le disent les anglo-saxons, c'est-à-dire bien souvent, en fait, on se retrouve dans un groupe d'hommes et puis on se met à écrire et puis sans s'en rendre compte, vraiment, on oppresse ceux qui ne font pas partie du club.
Absolument, c'était un peu comme tout le monde, comme tous ceux qui étaient sur Twitter à l'époque. J'ai été chercher un petit peu dans mon historique, voir si moi aussi j'aurais pas à un moment dépassé les bornes.
Ouais. Parce que je précise que cette histoire, finalement, elle est au début de Twitter France, en fait. Twitter existe depuis quelques années dans le monde, mais ce sont les premières année de Twitter.
Absolument. Et à l'époque, c'était vraiment un espèce de domaine complètement nouveau où tous ceux qui étions là avions un peu l'impression d'inventer des codes. Et entre autres, dans ces recherches de ce que j'avais pu écrire à l'époque, j'ai retrouvé une des choses qui était assez assez générique à l'époque. C'est lorsqu'il y avait des émissions de télé, on faisait un petit peu des live tweets.
Oui.
Et j'ai retrouvé, par exemple, des live tweets que j'avais moi-même fait, d'émissions, par exemple, comme L'amour est d'entrée, où je me moquais allègrement des candidates. Celle-là, qu'est-ce qu'elle va prendre, quoi. C'était pas... À l'époque, ça semblait complètement normal. Et c'est vraiment qu'en réfléchissant à posteriori, en les relisant, j'étais, mais voilà, moi-même consterné de ce que j'avais pu écrire à l'époque.
Mmh. Alors, il y a quand même une différence entre ce que vous avez pu ressentir en revenant sur ce que vous aviez pu écrire à l'époque ou faire à l'époque, entre ce que vous avez fait et moi, ce que j'ai lu hier soir, par exemple, qui est d'une violence vraiment inouïe, des propos sexistes. Et puis, il y a dans cette histoire un acharnement. Hein, donc, du coup, cette affaire de Ligue du LOL, elle représente une forme de virilité, mais vraiment particulière, parce qu'elle a des relents de domination masculine.
J'ai l'impression, c'est un peu la question que tout le monde pose. Et si moi j'avais été dans ce cas-là, moi je n'étais pas dans un groupe de ce style entièrement masculin, mais c'est un petit peu la question. Si j'avais été invité à participer à cette Ligue du LOL, en partant pour de base sur des motifs complètement bénins, voilà, pour raconter des bêtises, rigoler, s'échanger des bons plans, sur le principe. Est-ce que moi j'aurais senti ce glissement? Est-ce que j'aurais réagi autrement? Mm-hmm. Est-ce que tous ces mots que j'ai dit, est-ce qu'ils seraient passés à autre chose? Est-ce qu'ils seraient passés comme ça c'était le cas pour la Ligue 1? Est-ce que ça serait passé à des actions?
Mais voilà. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être aussi violent que ces personnes-là à l'époque,
je
le rappelle, en plus appartenaient quand même à une espèce d'élite, hein, une élite bien pensante, en plus ayant le monopole du bon goût, et puis l'affichant dès que c'était possible. On parle de journalistes, hein, qui étaient dans des parutions qui à l'époque et toujours aujourd'hui, hein, ont une espèce de toujours un petit peu de
modernité aussi.
Oui, une modernité, mais aussi qui donne un peu de leçon à tout le monde, hein, en règle générale. Bon, passons sur... en tout cas, on a compris que vous ne faisiez pas la même chose et que vous, c'était un petit peu sur le ton de l'humour que vous faisiez les choses, mais que vous êtes rendu compte que ça pouvait peut-être faire mal.
Mais aussi, au départ, c'était sur le ton de l'humour. Aussi, à la base, c'était de la blague.
Ouais.
C'était,
enfin,
la blague
un peu salace, quand même. Hein.
Voilà,
je ne sais pas si vous avez lu, mais c'est dur.
Il y a eu tout un glissement, je pense, qui s'est opéré, qui était, voilà, c'est... au départ, les paroles étaient... Et ces paroles, aussi bien celles qu'eux prononçaient, que ce que j'ai pu prononcer moi à l'époque, aussi bien que ce que une grande partie des hommes, encore aujourd'hui à l'époque, prononçaient, participaient de toute une culture de mise à bas des femmes, mmh. de mise à bas des homosexuels. De,
alors,
voilà.
Justement, qu'est-ce que la virilité pour vous aujourd'hui? Comment vous la définiriez, la virilité, puis la vôtre aussi? Est-ce qu'elle a... dites-moi.
J'aime pas trop ce concept. J'essaie au contraire de m'en tenir un peu éloigné de tout concept de virilité. C'est jamais un truc qui m'a vraiment
auquel vous
attiré
avez réfléchi.
Plus que ça. Je réfléchis à ce que ça veut dire d'être un homme. Voilà, je suis un homme cis, hétérosexuel. Donc c'est forcément j'ai des attributs masculins qui font que je réfléchis d'une certaine manière parce que la culture masculine est ce qu'elle est.
Mmh. On va continuer à en parler. Je pense que vous aurez plus de facilité à en parler parce que je sais que vous êtes le père de deux garçons. Et donc, du coup, je pense que vous aurez plus de facilité à peut-être à en parler, dans la manière dont vous éduquez justement vos deux garçons face à ces problématiques. On en parle dans quelques instants.
Europe 1.
Vous vous reconnaissez dans le témoignage de Vincent qu'on va retrouver. Vous posez des questions sur la place de l'homme dans la société actuelle. Vous remettez en question la domination masculine. On vous écoute au 39-21. composez le 3921 pour venir échanger avec Olivier Delacroix. Et cette question aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme? La puissance sexuelle, l'héroïsme, la force physique? On parle de la virilité avec vous cet après-midi sur Europe 1.
Et justement, nous étions en train d'en parler, Ombline.
Oui,
et c'est vrai que c'est quelque chose moi, auquel je n'ai jamais pensé, parce qu'on pouvait être surpris de la réponse de Vincent, qui nous disait finalement la virilité, lorsqu'on lui demande qu'est-ce que c'est la virilité, c'est vrai, vous avez eu du mal à y répondre, hein, Vincent, à cette question, parce que visiblement c'est quelque chose, en tout cas, qui n'est pas central dans vos réflexions.
C'est quelque chose, la virilité, voilà, le fait d'être un homme qui c'est ce que je suis, en fait, tout bêtement.
Ouais.
Après, voilà, comme je disais, je suis pas l'exemple type de l'homme baraqué costaud sportif, donc cette porte-là, elle a été assez loin.
Hein. Ouais, mais je connais beaucoup d'hommes sportifs baraqués qui ne sont pas plus virils que vous ou moi. Hein.
Oui. Ouais, voilà, donc oui, mais c'est... Après, c'est... Ouais, comme on disait tout à l'heure, hein, ces questions-là, c'est vrai que je me les posais un petit peu moins à l'époque. Maintenant, voilà, je suis père de deux enfants,
ouais,
deux garçons.
Mmh.
Forcément, la question se pose de façon beaucoup plus forte aujourd'hui.
Alors justement, comment elle se pose? Vous êtes demandé comment éduquer vos deux jeunes garçons dans une société plus juste, où la virilité est au cœur, hein, puisqu'on en parle de plus en plus. On parle de notions égalitaires aussi entre les hommes et les femmes. Alors comment justement vous essayez de les éduquer par rapport à ça?
Bah c'est un peu compliqué, en plus de déjà la complication habituelle d'élever des enfants, c'est qu'on est vraiment soumis à deux forces différentes. C'est-à-dire que d'un côté, le but, c'est que ça devienne des hommes qui soient respectueux d'autrui, des femmes, mm-hmm, de ceux qui ne sont pas comme eux, de tout le monde. De notre côté, il y a aussi classiquement, par exemple dans les cours de récré, il y a un petit peu un bonus à celui qui est le plus viril, le plus costaud.
Mmh.
Et c'est vrai que des fois on a tendance à dire à nos fils, par exemple, pleure pas,
défends-toi
sur toi, voilà, te laisse pas faire. C'est un peu contradictoire. Oui,
on sait, hein, que les cours de récréation sont d'une violence inouïe, hein, puisque les enfants n'ont pas souvent conscience de la portée de leurs propos. Justement, en fait, si vous évoquez cela, c'est que je crois savoir qu'à l'anniversaire de votre aîné, vous avez entendu des propos qui vous ont alerté, on va dire, plus que choqué. Racontez-moi.
Absolument, non, mais choqué même. Hein. C'était sur l'anniversaire, donc il fêtait ses 9 ans,
ouais,
et avait invité quelques amis à lui à la maison, classique. Et pour se chamailler, ils s'insultaient un petit peu les uns les autres, bon, ça c'est aussi assez banal, enfin, c'est triste, mais banalement triste.
Ouais.
Mais là, l'insulte qui leur venait sous la langue immédiatement pour s'insulter, c'était « toi, t'es gay ».
Gay,
voilà, mm-hmm, être gay, c'était pour eux la plus grosse insulte à laquelle ils pouvaient penser. Donc j'ai été un peu fouillé, je me suis dit, voilà, est-ce qu'ils comprennent vraiment que ça veut dire ce mot, ou est-ce que c'est un mot qu'ils ont entendu à droite, mm-hmm, à gauche et qui...
Vous les avez confrontés à ça?
Je leur ai demandé, et
ouais,
c'est ça le plus dramatique, c'est qu'ils comprenaient exactement ce qu'ils étaient en train de dire.
Mm-hmm.
Et oui, des gays, c'est deux ans ensemble. Et ah bon? Et la phrase suivante, c'est ça qui m'a probablement le plus choqué, c'était oui, et c'est contre nature.
Et c'est
contre nature.
Ah oui, d'accord.
Et voilà,
pour des enfants de 9 ans, c'est assez... ça montre que...
Enfants de 9 ans.
Ouais, ça montre, parce que je me rappelle de mes 9 ans, moi, mais j'étais pas du tout dans ce type de réflexion, et vous non plus, je suppose. Ça dit quoi, justement, de notre société, que les enfants, dès leur plus jeune âge, utilisent des insultes comme celle-là, mais que visiblement, ils en connaissent la signification?
Voilà, s'insulter entre enfants à cet âge-là, c'est classique. C'est aussi un âge où on apprend un petit peu le conflit. C'est
ouais,
un âge où on apprend à se bagarrer, à se cogner un petit peu. C'est normal. Et voilà, c'est un âge aussi où ils font leur propre personnalité. Mais là, vraiment, c'était vraiment cette connaissance, savoir parfaitement ce que ça voulait dire, savoir parfaitement que dans leur point de vue, dans leur vision. Alors c'était un, là j'allais dire de la vérité, mais non, c'était un garçon et une fille qui ouais. disaient ces ouais. mots. Mmh. Dans leur vision d'enfant, c'était quelque chose qui ne rentrait pas du tout pour eux dans le dans une normalité, même dans une chose acceptable.
Mais justement, est-ce que cela ne dit pas vraiment quelque chose de notre société, voilà ce que vous nous racontez là, une société qui aujourd'hui est trop normée finalement, et construite sur des stéréotypes qui va même jusqu'à toucher nos propres enfants.
Bah, est-ce que ça l'est devenu ? Je me demande si ça l'est devenu ou si c'était quelque chose qui était déjà latent. On parle souvent, et à raison, par exemple, de culture du viol, ouais. et ce n'est pas des choses qui sont nouvelles, ou de culture de l'homophobie, ce n'est pas nouveau, c'est des choses qui existaient déjà. Peut-être qu'aujourd'hui, on a plus les yeux ouverts pour s'en apercevoir.
Merci en tout cas, Vincent, pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Bon courage pour l'éducation de ces deux garçons, mais tout m'a l'air parfaitement bien parti. Et puis, parce que c'est du boulot, hein, on en parlait hier, justement, ouais. on avait du travail aussi hier avec beaucoup de parents qui nous disaient combien c'était un métier, pas un métier, mais en tout cas, tous s'accordaient à dire que c'était du travail. Donc bon courage. Dans quelques instants, nous allons accueillir Olivia Gazalet, elle est philosophe et auteure de l'ouvrage Le mythe de la virilité.
Europe 1.
Et on a envie de vous entendre également. Est-ce que la virilité est remise en question? Le 39-21, dites-le nous également via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. L'idée du mal tout-puissant est dépassée. Qu'en est-il de la virilité? Est-elle remise en question selon vous? 39-21 pour nous appeler. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Olivia Gazalet, philosophe. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci à vous.
Je vous en prie. Vous avez publié l'ouvrage Le mythe de la virilité, disponible aux éditions Robert Laffont. Alors, ma première question. Pardon ?
Il sort en pocket la semaine prochaine.
Ah bah écoutez, c'est une information supplémentaire et utile. Pourquoi parler de la virilité comme d'un mythe ?
Alors, d'abord, j'aurais voulu simplement qu'on comprenne bien la différence qu'on doit faire, je pense, entre la masculinité et la virilité. Et je préfère dire les masculinités au pluriel, c'est-à-dire il y a autant de masculinité qu'il y a d'hommes ou de féminité. Il y a des hommes qui sont petits, il y a des hommes qui sont danseurs, il y a autant de masculinité qu'il y a de diversité humaine. Mmh. La virilité, en revanche, c'est un idéal, c'est un modèle normatif extrêmement contraignant et qui a été, si vous voulez, théorisé et conceptualisé depuis l'Antiquité et dont nous sommes encore les héritiers. Et c'est un idéal qui est à la fois très contraignant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, oui. parce qu'il impose à chaque homme la puissance, la maîtrise, la domination, la force, tout un tas d'injonctions qui sont très pesantes. On parle d'un fardeau de la virilité. Mmh. Et c'est aussi des injonctions qui sont aussi des injonctions qui sont très discriminatoires, parce que tous les hommes qui ne sont pas porteurs des marqueurs de la virilité que je viens d'énoncer, ont toujours été rejetés. C'est pour ça que tout à l'heure, votre invité Vincent disait à juste titre, l'homophobie n'est pas nouvelle. L'homophobie est le mépris pour celui qui est jugé comme un sous-homme ou qui n'appartient pas à la catégorie supérieure de la virilité. Ce sont des hommes qui ont toujours été insultés, maltraités, exclus, voire mis à mort. Mmh. Donc il n'y a rien de très nouveau là-dedans, si vous voulez. Ce qui est aberrant, c'est qu'on en soit encore là. Mais je ne crois pas qu'on soit dans une situation pire qu'autrefois.
Mais est-ce que c'est parce que notre société a été construite autour justement de la dite supériorité des hommes sur les femmes que tant d'inégalités existent aujourd'hui et que finalement on dévie, comme vous parliez de l'homophobie, qui est un marqueur vraiment essentiel, en tout cas qui représente très bien cette inégalité.
Absolument, parce que tout est lié. En fait, le mythe de la virilité, à la base, ça n'est rien d'autre que le postulat de la hiérarchie des sexes. Ouais. Autrement dit, on pose qu'il y a une supériorité du masculin sur le féminin. Dans tous les domaines. Et de fait, celui qui est considéré comme efféminé, qui se rapproche des femmes, est donc lui aussi dans la catégorie des inférieurs. Donc l'homophobie est directement liée à la gynéphobie, donc à la haine des femmes, à l'infériorisation des femmes. Mmh. Donc ça, c'est vraiment un seul et même principe. Et si vous voulez, c'est une idéologie de la domination, mais j'irais jusqu'à dire que c'est pas seulement de l'homme sur la femme, de l'homme sur l'autre homme, c'est aussi la domination de l'homme sur l'animal, la domination de l'homme sur la planète. Bref, c'est l'idée que le vir, c'est-à-dire l'homme au sens héroïque du terme, c'est le représentant le plus accompli de l'espèce humaine, mais aussi que c'est l'espèce la plus aboutie de toute la planète en réalité.
Parce que lorsque vous parlez de l'homme, vous parlez notamment de l'homme et des femmes, puisque dans votre ouvrage, vous dites aussi que la virilité est un piège pour les deux sexes. Expliquez-moi ça.
Exactement. Eh bien, parce que cette idéologie de la domination, elle est très contraignante aussi pour l'homme. On peut parler d'un fardeau de la virilité. Le sociologue Pierre Bourdieu disait très justement « la virilité est un privilège ». Et un piège, parce que quand vous imposez à un homme d'être grand, fort, musclé, puissant, de maîtriser, ça veut dire maîtriser ses émotions, maîtriser sa colère, on ne pleure pas, on ne montre pas sa souffrance, on n'a pas peur de la mort, on va se jeter sur le champ de bataille, tout ça, ça représente une violence pour le sexe masculin lui-même, parce que la virilité, de fait, a toujours été critique, elle a toujours été en crise. Il y a toujours des hommes qui se sont sentis mal à l'aise avec cette définition du virilisme. Donc ça a toujours été problématique pour la simple et bonne raison que c'est construit, si vous voulez, la masculinité, elle est naturelle, enfin, c'est avoir un sexe. Mais la virilité, c'est une construction idéologique, normative, c'est-à-dire de dire un homme, ça ne pleure pas. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas naturel. La nature, c'est que vous êtes doté du même pouvoir lacrymal que nous et ça vous soulage de la même manière que nous. Donc de dire un homme, ça ne pleure pas, ça n'est pas naturel, c'est construit. Mm-hmm. Et c'est une construction qui représente aussi une violence pour les hommes. Autre exemple, quand on dit l'homme, il se définit par ce qu'il fait et la femme par ce qu'elle est. Donc la femme, elle est entièrement dévouée à la maternité, elle est ce qu'elle est, elle est son corps. Alors que l'homme, lui, il pense, il fait, il agit sur le monde. Moyennant quoi, pendant des millénaires, on a considéré qu'il était le seul à pouvoir aller, le seul pourvoyeur de ressources, si vous voulez. Et ça, c'est aussi un énorme piège qui se referme sur lui. Parce qu'aujourd'hui, quand un homme est au chômage, eh bien, c'est double peine. Une femme qui est au chômage, elle est juste en difficulté, mais elle n'est pas déconsidérée comme femme. Alors qu'un homme qui ne travaille pas n'est plus considéré, enfin en tout cas la société ne le considère plus comme un homme, un vrai.
Ouais, c'est vraiment la double peine comme vous le disiez. Nous l'entendions d'ailleurs à travers le témoignage de Vincent, certains ne se rendent même pas compte qu'ils ont qu'ils sont dans une culture machiste, sexiste. Et justement, à travers votre ouvrage, vous en parlez. Comment éveiller les consciences? Comment expliquer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, comment éveiller leur conscience?
D'abord, je crois que les consciences sont en train de s'éveiller quand même depuis un certain temps, parce que comme vous le dites très justement, un mythe ne sait jamais qu'il est un mythe. C'est-à-dire qu'on prend ça pour une donnée naturelle. Et moi, j'entends souvent des hommes qui me disent, avant d'avoir lu mon livre, parce qu'après, ils changent d'avis, mais ils me disent, la virilité, c'est quoi? C'est la testostérone, c'est la nature. Ouais. Mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que oui, peut-être la force physique, mais vous avez des femmes qui sont très fortes et des hommes qui sont faibles physiquement. Ce qui est construit, c'est de dire que justement, parce que l'homme a de la testostérone, il a des désirs sexuels qui sont irrépressibles, qui ne peut pas se retenir, parce qu'il a de la testostérone, alors il est naturellement violent, naturellement porté au conflit. Or, tout ça, c'est une construction idéologique dont l'homme ne se rend même plus compte, mais qui a eu une utilité pour les dominants qui l'ont créé depuis l'Antiquité, c'est d'envoyer des hommes à la guerre, ni plus ni moins. Donc, si on veut envoyer des gamins de 17 ans et à Sparte, et au Moyen-Âge, le service militaire commençait à 4 ans, si on veut envoyer des gamins se faire tuer à la guerre, il faut leur dire que la virilité, c'est ne pas avoir peur, ne pas pleurer, ne pas montrer ses faiblesses, mais c'est entièrement construit parce qu'on le voit bien, et d'ailleurs, en ce moment, il y a tout de même une mode au cinéma où on voit que les hommes, les vrais, ce n'est pas ce qu'on nous a montré. Non. Les hommes, les vrais,
ils ont changé.
C'est ceux qui sont Voilà, c'est ceux qui souffrent et qui osent enfin le dire.
Et qui osent.
C'est une délivrance
complètement,
énorme.
Complètement. Et pendant que vous étiez en train de me parler de ça, je pensais à Tony Soprano, qu'on voit pleurer et qui est pourtant chef de la mafia. Aujourd'hui, c'est vrai que la représentation du mal viril aussi, elle est en train de changer à travers des héros comme ça. Et ça n'est pas plus mal. Olivia Gazzale, vous restez bien évidemment en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes philosophe, auteur de l'ouvrage Le mythe de la virilité qui sort en poche la semaine prochaine. Je le dis parce que c'est un outil très intéressant pour les hommes qui doutent de leur virilité ou en tout cas qui veulent en savoir un peu plus. Dans quelques instants, nous accueillerons Claude. Il a traversé les époques et pour lui, la virilité existe. Elle vient du désir, mais elle a aussi ses dérives.
Et Jean-Michel réagit au 39-21. Jean-Michel de la Vienne, il a 59 ans. Pour moi, dit-il, la virilité, c'est dans le regard des autres. C'est dans le regard des femmes que je ressens si je suis virile ou non. J'aime beaucoup quand les femmes m'admirent et je retrouve de la virilité à ce moment-là.
Europe 1.
Venez nous dire ce que c'est un homme viril selon vous. On vous attend au standard d'Europe 1, 39-21. Vous nous écrivez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Virilité, comme le scandale de Prétois, elle est remise en question. Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Et au même titre que je vous engage à lire le livre d'Olivia Gazzale, je vous engage à réécouter et à bien étudier les paroles de cette chanson parce qu'elle est, d'une justesse remarquable.
Prétois, ouais.
Remarquable.
Très, très fort.
Nous sommes maintenant en ligne avec Claude. Bonjour. Bonjour Claude, merci d'être avec nous sur Europe 1.
Ben bonjour, merci de m'accueillir.
Mais je vous en prie. Claude, vous avez 80 ans, vous avez donc traversé les époques et notamment connu la révolution sexuelle au début des années 70. Pour vous, la virilité vient du désir. Qu'entendez-vous par là ?
Elle est multiple, la virilité. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le désir sexuel, il y a le désir inconscient,
oui.
Il y a l'attirance. Il y a aussi la manière dont on gère son corps, la manière dont on gère ses relations. Et quand on pense à la virilité, on est tout de suite une espèce d'image d'un homme qui fait du sculpturisme, enfin c'est une espèce de personnage un peu mythique, alors que la virilité est beaucoup plus, je dirais, plus astucieuse. C'est aussi
plus subtil.
Plus subtil, oui.
Vous positionnez comment, justement, par rapport à cette image que vous nous décriviez, et vous, la vôtre ?
Alors moi, je peux dire que j'ai construit ma virilité. J'ai eu une enfance un peu complexe, orphelinat, foyer, etc., ouvrier, apprentissage, ouvrier d'usine.
Oui.
Et en parallèle, eh bien, j'ai voulu être un homme fort, un jeune homme fort, et donc j'ai fait beaucoup de sport.
Ouais.
Course à pied, maître nageur, arts martiaux, etc. Et puis à 20 ans, j'avais rencontré peu de femmes.
Ouais.
Je savais que j'avais une image de séduction. Et c'est après 20 ans où j'ai effectivement, je me suis senti un homme viril, un homme fort,
Vous dites,
responsable.
Vous dites justement que vous avez toujours eu une vie sexuelle virile. Ça veut dire quoi ? Et est-ce que c'est important pour vous ?
Écoutez, oui, moi je vis depuis 58 ans avec une femme.
Ouais.
Je pense que si nous amusions à faire des statistiques par rapport à la sexualité, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait l'amour. Et en plus, on a vécu les années liberté sexuelle où on a partagé à un moment donné notre sexualité avec d'autres.
Mmh. Mais
c'est
quoi une vie sexuelle virile pour vous ? Parce que moi, je ne sais pas.
Ben, c'est le désir.
Le désir.
Ben, j'ai toujours un gag, alors c'est pas 80, hein, je vais avoir 79.
D'accord.
Mais par exemple, quand je suis avec des amis, en plus je suis un peu dans les milieux du spectacle et du sport,
ouais.
J'ai toujours la blague, me touche pas, je vais avoir une érection. En gros, c'est un peu ma répartie amusante de dire, je crois que le désir est présent d'une manière, je dirais, permanente dans ma vie. Quoi. Ça fait partie, l'objet du désir... fait partie de la virilité.
Alors vous qui avez vu, vous avez traversé des époques, comme je le disais, et vous avez vu l'image de cette virilité évoluer, changer. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est, à votre avis, remise en question, l'image de cette virilité ?
C'est-à-dire qu'elle était un peu unique, cette image de virilité, je dirais, dans les années 60. C'était un mec bien bâti, une grande gueule... Enfin, moi, quand j'avais 20 ans, 20-30 ans, on m'appelait Bébel, Belmondo. Enfin, oui. Des artistes comme
pas
ça.
Mal. Pas mal,
quand
même.
On se lance. Je crois que vous avez vu quelques photos, non?
Oui, je crois qu'à
un moment donné, on a sa propre image et on va gérer cette propre image. Mm-hmm. Et pour moi, la virilité a changé parce que, si on parle des différentes communautés, même sur le plan sexuel, le mouvement de liberté sexuelle, aussi bien lesbien, au niveau de l'homosexualité, tout ça, c'était camouflé. Il y avait une espèce de couverture. Bon, maintenant, il y a quand même une libération de la parole. Et qui s'entrechoque parfois avec des conservatismes absolument invraisemblables. Ouais. Donc, cette virilité, elle est fracturée quelque part. On n'a pas la même image des virilités qu'on avait il y a une trentaine d'années, quoi. Mmh.
Merci beaucoup, Claude, pour nous avoir fait partager votre histoire et votre analyse, votre vue sur la virilité. Vous qui l'avez vue évoluer, muer, se transformer, c'était très intéressant. Et puis, bonne continuation dans la tonicité que vous nous décrivez, puisque aujourd'hui, du haut de vos 79 ans, vous avez une forme extraordinaire. Visiblement.
Bah, apparemment, oui.
Bon, eh ben, très bien. Dans quelques instants, nous allons accueillir Sacha. Il a eu du mal pendant son adolescence à construire sa masculinité. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Aujourd'hui, il se sent viril lorsqu'il contrôle les choses.
Didier nous appelle de Seine-Maritime. Il a 57 ans, au 39-21, et il témoigne. Il dit « Il faudrait parler du yin et du yang. Il faut être équilibré dans ses énergies. J'ai eu 4 garçons et j'ai toujours veillé à ce qu'ils restent des êtres sensibles. On s'éloigne du regard de l'autre pour être plus soi, être en équilibre avec soi-même. La puissance n'a pas de sexe. »
Europe 1.
Sans forcément parler de mâle tout puissant, qu'est-ce que ça veut dire être un homme viril? 39-21 pour témoigner. On lit également vos messages sur Twitter, hashtag Europe 1. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix. Quand on pense homme viril, on pense guerrier, Don Juan ou James Bond. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, messieurs? Comment rester viril en respectant l'égalité femme-homme? Venez partager votre expérience au 39-21.
Et nous accueillons maintenant Sacha sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour et merci de participer à cette émission, Sacha.
Bonjour.
Bonjour. Alors, Sacha, vous avez 42 ans. Vous dites que la construction de votre masculinité a été un moment difficile de votre adolescence. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut dire et pourquoi ?
J'ai été élevé par un couple un petit peu étrange, mon père étant totalement absent et indifférent à ma présence, oui. Et ma mère étant fusionnelle avec moi. Donc j'ai développé une espèce de double attachement insécure. Et la construction de la masculinité chez moi s'est faite sans modèle réel. Et donc je me suis senti un petit peu lâché dans le vide à l'adolescence notamment,
oui.
Sans exemple.
Vous me direz comment ça se traduit aujourd'hui dans votre vie de tous les jours, mais à l'époque vous aviez l'impression que ce n'était pas être un homme, ne pas être viril, que de ne pas réussir à répondre aux vannes, aux agressions par exemple.
C'est ça, je me sentais un petit peu sans défense, j'étais comme stupéfait par le climat d'agressivité qu'on peut avoir dans une cour de récréation, ouais. de primaire ou de collège. J'avais l'impression de pas être à la hauteur, de pas savoir répondre. D'accuser le coup systématiquement et de ne pas arriver à défendre mon territoire comme j'aurais pu, comme j'aurais dû le faire.
Mmh. Vous dites que la virilité est devenue un concept moral pour vous. Qu'entendez-vous par là ?
J'ai l'impression que la virilité, c'est surtout aujourd'hui un ensemble de qualités qu'on attend d'un homme.
Oui.
C'est en ça qu'elle se distingue de la masculinité. C'est-à-dire que la virilité, c'est vraiment ce qu'on attend d'un homme. Et c'est un objet, c'est une construction sociale.
Et alors, on attend quoi de cette virilité, à votre avis ?
Alors, le principe, je pense, de la virilité, c'est que c'est un objet historique qui a beaucoup évolué depuis les années 70.
Oui.
J'ai l'impression que aujourd'hui, on attend d'un homme, par exemple, le statut du corps et de la violence physique a beaucoup changé.
Mm-hmm.
On n'attend pas d'un homme aujourd'hui qui soit en mesure de se défendre physiquement. Ce sont des valeurs qui sont passées au second plan. On attend d'un homme aujourd'hui qui soit en contrôle de ses réactions. La virilité, elle évolue en fonction de la société.
Lorsque vous comparez la virilité à la manière de s'imposer physiquement, par exemple, vous trouvez que ça a beaucoup changé par rapport, par exemple, aux années 70 où dans les films, on pouvait voir quand même, on pouvait la sentir, cette virilité, chez Lino Ventura, par exemple, chez Jean Gabin.
Complètement. Moi, j'ai l'image des westerns de mon enfance. On voit le personnage accoudé au bar et tout d'un coup les bandidos qui arrivent. qui le cerne à 7, tout le monde est terrorisé et lui garde son sang-froid, il termine sa clope tranquillement et il négocie avec le chef. C'était la notion du contrôle qu'on pouvait avoir à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, on n'attend plus ça d'un homme. Aujourd'hui, on attend d'un homme des capacités de négociation, des capacités de discussion, une ouverture aux émotions aussi.
Mmh. Alors, vous me l'avez dit, votre virilité s'est construite à travers une époque où vous étiez confronté à des parents que vous décrivez comme étranges, avec une maman visiblement envahissante. Comment elle était, cette maman ?
Fusionnelle.
Fusionnelle,
c'est-à-dire
fusionnelle.
Que je représentais tout pour elle. Je représentais tout pour elle, et quand on est un enfant, ben c'est très difficile de tout représenter pour quelqu'un, on n'est pas préparé à ça.
Et donc, en quoi le modèle de votre virilité s'est construit d'une manière particulière, justement par rapport à cette fusion entre vous et votre mère ?
Ben, j'ai l'impression que surtout, elle s'est improvisée, cette virilité. Elle s'est construite sur l'absence de modèle et en opposition, qui m'a posé notamment des difficultés quand je suis devenu père.
Oui.
Puisqu'il a fallu construire cette paternalité, cette paternité à partir de fragments, à partir de rien, et dans une espèce de quelque chose de très jazz, finalement, de très improvisé, et finalement d'assez libre.
Et finalement, je pensais justement au rapport que vous aviez avec votre mère. Souvent, on s'inspire donc de cette maman et d'une femme, donc. Et est-ce que vous avez hérité d'une sensibilité féminine, finalement, qui fait que moi-même, je sens que j'ai une sensibilité féminine. Cela fait de nous des êtres qui ne paraissent pas virils au premier abord, mais parce que on est doux, parce que on est peut-être un peu plus, on aborde les situations de manière un peu plus douce, un peu plus subtile, et souvent. Ça peut poser problème quant à notre virilité.
Alors, justement, c'est en ça qu'on peut dire que la virilité a beaucoup évolué aujourd'hui. Moi, ce que j'ai hérité de ma mère, c'est la sensibilité, c'est surtout le sens de l'écoute des autres.
Oui.
Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est valorisé, je pense, davantage. Voilà, je suis quelqu'un qui écoute, je suis quelqu'un qui sait dialoguer, je suis quelqu'un qui sait déminer des situations. J'ai su construire ces qualités-là sur ce terreau un petit peu d'étrangeté familiale.
Mmh. Sacha, vous restez en ligne avec nous. Dans quelques instants, nous continuerons à parler de ce qu'est la virilité, mais surtout ce qu'elle représente aujourd'hui pour vous en 2019.
Europe 1.
Qu'est-ce que ça veut dire être viril, selon vous ? Eh bien, le 3921 pour nous le dire. Merci de choisir Europe 1. La virilité est-elle remise en question ? Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Pour conclure cette émission, nous sommes toujours avec Sacha qui nous expliquait que sa relation fusionnelle avec sa mère à l'époque, en pleine construction hein, finalement de votre adolescence, avait fait de vous un être plutôt sensible, plutôt porté sur l'écoute, et que là, cela pouvait se heurter au concept de cette virilité. Cette virilité d'aujourd'hui, comment vous la décririez, cette virilité d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle véhicule ?
Je dirais qu'elle est composite, cette virilité d'aujourd'hui. Elle est beaucoup moins frontale qu'elle a pu l'être par le passé. C'est moins une virilité d'affrontement. C'est plus une virilité de responsabilité et de contrôle de sa vie.
Mm-hmm.
Je ne sais pas si je suis très clair.
Si. Et justement, est-ce que en cela, votre sentiment que les femmes se sont appropriées quelque part une certaine forme de virilité, est-ce que pour vous ça vous parle ça ?
Bien sûr, je pense qu'on est complètement dans ce cas de figure, puisqu'aujourd'hui, on a déjà les femmes travaillent depuis les années 70,
oui.
Et elles s'imposent de plus en plus à des postes de responsabilité qui étaient jadis dévolus aux hommes. Je pense que c'est une conquête féminine, effectivement, et du coup, on va vers une espèce de limite un petit peu floue entre les sexes, de différenciation moins marquée.
Mmh. Alors, vous, j'ai cru comprendre que vous étiez papa.
C'est ça.
Vous vivez avec votre femme.
C'est ça.
Et donc, en fait, est-ce que donc cette virilité, par moment, elle est remise en cause, ou est-ce que vous sentez que vous êtes obligé de forcer un peu le trait pour, par moment, montrer, la montrer, cette virilité, ou c'est quelque chose qui est tout à fait naturel entre vous ?
Alors, ma femme est une personne qui est extrêmement responsable, et qui est très, j'allais dire, masculine dans sa façon d'aborder, de contrôler la vie familiale.
Mmh.
Donc oui, c'est un petit peu une conquête. Ça l'est moins aujourd'hui, puisqu'on est ensemble depuis, ça doit faire 13 ans maintenant. Donc on a trouvé un équilibre, mais ça a été l'objet d'âpres discussions, puisqu'on a finalement un couple où la polarité paraît parfois un petit peu inversée par rapport à la normalité, entre guillemets.
Et dans quel moment vous vous sentez viril, vous, dans quel type de situation ?
Je me sens viril quand je peux apporter quelque chose de positif à mes enfants, quand j'ai l'impression de leur donner un son de cloche différent de leur mère. Quand j'ai l'impression d'apporter une complétude à leur éducation. Je me sens viril quand je me sens en contrôle de ma vie.
Justement. pourquoi, en fait, se sentir viril quand on pense qu'on a le contrôle des choses?
Alors, c'est difficile à expliquer, c'est une sensation qui est quasiment physiologique, physique. C'est-à-dire que j'ai l'impression, je suis ancré, c'est une question d'ancrage. Voilà, je me sens ancré dans ma vie, quand j'ai le contrôle de mes décisions, quand j'assume un projet professionnel, par exemple, de A à Z, en prenant les bonnes décisions au bon moment. Là, j'ai l'impression d'être dans la masculinité de ma personne.
Mmh. On sent que c'est quelque chose auquel vous avez beaucoup réfléchi. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a ne pas posé problème, en tout cas auquel vous avez pensé. Est-ce que vous avez partagé cette idée de la virilité avec vos amis et qu'en disaient-ils?
Il m'arrive d'en parler sur Facebook.
Ouais.
Régulièrement dans le cadre d'échanges quand la question émerge, oui, de temps en temps, mais je peux pas dire que ce soit une problématique centrale dans mes échanges avec autrui.
Ouais.
Je peux pas dire ça, mais par contre je pense que c'est une problématique sociale centrale.
Oui,
on en parle très peu.
On parle
énormément de l'évolution du statut de la femme,
ouais,
de la féminité, on parle assez peu de l'évolution de l'homme contemporain.
Mmh. Mais l'être subtil que je sens au bout du fil, a pu deviner chez certains de ses interlocuteurs, même sur Facebook, l'importance pour les hommes de montrer cette virilité, en tout cas de vraiment la prouver. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que pour un homme, c'est très important de montrer qu'à travers le contrôle qu'il peut avoir au sein du foyer, c'est important de montrer qu'on est l'homme, on est viril?
Alors, prouver sa virilité, moi, j'y crois pas. J'ai plutôt l'impression qu'il faut la porter comme on porterait un beau costume Armani à 3000 euros.
D'accord. Ce qui veut dire.
C'est plutôt ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose de noble.
Oui.
Dont il faut prendre soin. Et il y a de quoi être infiniment fier de sa virilité.
Mmh. J'ai une dernière question à vous poser parce que je sais que vous avez eu une discussion avec l'un de vos amis à propos du changement des couches des enfants. Et quelle en était la teneur de cette discussion?
Alors, c'était assez révélateur puisque cet ami, qui est aujourd'hui quadragénaire, me disait qu'il avait développé sa personnalité de père en opposition avec son père à lui, qui était un homme donc qui a accédé à la paternité dans les années 70 et qui avait honte de changer les couches de ses enfants, qui ne le faisait jamais parce que pour lui, c'était absolument pas un attribut de la masculinité. Et mon ami me disait que lui était fier de changer les couches de son bébé et que c'était presque un acte militant pour lui de le faire. En même temps, c'est rentré dans une normalité qu'il ne comprenait pas ce père qui lui semblait ici d'une autre époque, révolue et définitivement condamnable.
Merci beaucoup, Sacha, d'être intervenu sur notre antenne cet après-midi. Je me tourne vers vous, Olivia Gazalet. Je rappelle que vous êtes philosophe et auteur de l'ouvrage « Le mythe de la virilité ». Êtes-vous d'accord avec Sacha lorsqu'il dit que les femmes se sont appropriées depuis quelques années le concept de la virilité?
Alors, je n'aime pas trop le terme « approprié ». Mais en fait, les femmes, si vous regardez l'histoire, ont toujours été... Il faudrait laisser tomber ce terme de virilité, c'est-à-dire les femmes ont toujours été et exercé des formes de puissance. Les femmes ont toujours eu l'appétit du pouvoir, l'appétit de la conquête. Certaines étaient des guerrières impitoyables. Donc il y en a eu chez les Celtes, il y en a eu dans la préhistoire, il y en a eu au Moyen-Âge. Donc, si vous voulez, après, on a la société a essentialiser, c'est-à-dire considérer que la femme, par définition, par nature, son royaume, c'était la douceur, l'empathie, la bienveillance, la patience, l'amour des enfants, le soin des autres, et qu'elle n'avait aucun goût du pouvoir et aucune ambition de force ou de puissance sexuelle. Et qu'à l'inverse, l'homme, lui, n'était pas quelqu'un qui était dans l'empathie, dans la gentillesse, etc., mais enfin tout le contraire. Et qu'il était donc le seul à avoir le goût du pouvoir, de la conquête et de l'héroïsme. Donc quand on dit les femmes se sont appropriées des vertus masculines, on se trompe. Enfin, on considère que c'était des propriétés qui étaient naturellement masculines, alors qu'elles, en fait, elles n'étaient que construites comme ça. Mais les femmes en ont toujours eu envie, elles se sont toujours battues pour ça, simplement on les a mises sur l'échafaud, on les a brûlées, on les a traitées de sorcières à chaque fois qu'elles ont essayé.
Et ce qui change, pardonnez-moi de vous interrompre, mais nous touchons à la fin de cette émission, et ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, elles ne se les approprient pas, mais que les choses se font tout à fait naturellement. Merci, Olivia Gazalet, pour vos éclairages. Merci à Sacha d'être intervenu sur notre antenne cet après-midi. Merci aussi à Vincent, à Claude, d'avoir partagé aussi leur histoire. C'est la fin de cette émission. La notion de virilité interroge, et elle prête à débattre, on l'a vu, le principe principe de l'homme fort, vigoureux, qui ne pleure pas, paraît un poil dépassé. Nous évoluons dans une société qui réclame de plus en plus d'égalité et la domination masculine est maintenant mise à mal. Sur cette question de la virilité, n'hésitez pas, hein, je vous renvoie encore à lire l'ouvrage d'Olivia Gazalet, mais aussi celui d'Ismaël Khalifa, intitulé « Mal d'hier, homme d'aujourd'hui », disponible aux éditions du Seuil. Et puis, la virilité, on peut continuer à en parler, Ombline.
Oui, bien sûr, vous n'hésitez pas à échanger entre vous sur le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. On le dit, on le répète, hein, chaque semaine, les émissions sont en direct sur Europe 1, puis après, elles continuent de vivre sur ce réseau social qui est Facebook. Donc, n'hésitez pas à échanger entre vous et puis à nous rejoindre aussi.
Et puis, à la question, est-ce que je lis vos questions? Est-ce que lis vos commentaires? Je n'en rate pas un et j'essaie d'y répondre le plus possible, bien évidemment.
Bien
donc,
sûr.
N'hésitez pas à nous poser des questions.
Oui.
Sur, sur Facebook aussi bien que sur l'Instagram Olivier Delacroix officiel. On est là, on vous écoute, l'équipe qui
toute
est là devant
là,
et
sûr.
On vous écoute attentivement.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble des relations mère-fille. Une relation qui peut être aussi bien conflictuelle que fusionnelle. Alors si vous avez une relation difficile avec votre fille ou votre mère, si votre relation s'apparente plus à celle de copine, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Ma chère Ombline, j'étais ravie de passer cette heure à vos côtés.
Également, merci.